اخو يعيش اليوم يوم ما بعد يوم دنيا تجري مدوم بلا تندم وتلوم عيش حياتك اليوم ممكن اللي كان ما يكون ممكن اللي كان ما يكون ممكن اللي كان ما يكون يا اخو يعيش اليوم يا اخو يعيش اليوم شكل معقدين في حياتك تنجاح يا خويا عيش اليوم يوم بعد يوم دنيا هادي ما تهون بلا تندم وتلوم يا خويا عيش اليوم يوم بعد يوم دنيا تجري ما تهون بلا تندم وتلوم عيش حياتك اليوم ممكن اللي كان ما يكون ممكن اللي كان ما يكون ممكن اللي كان ما يكون يا خويا عيش اليوم يا خويا عيش يا خويا عيش اليوم يوم بعد يوم دنيا هادي ما تدوم بلك ندم وتلوم عيش اليوم يوم بعد يوم دنيا تجري ما تدوم بلك ندم وتلوم عيش حياتك اليوم ممكن اللي كان ما يكون ممكن اللي كان ما يكون ممكن اللي كان ما يكون يا خويا عيش اليوم يا خويا عيش اليوم
Bonsoir, vous êtes bien sûr les ondes de Radio Centre-Ville avec l'émission, une émission conjointe entre Taxi Maghreb et Montréal. C'est une série d'émissions du mois de novembre. On l'a commencé avec l'émission sur la révolution algérienne et bien sûr on dédie le mois de novembre au peuple palestinien, à ce qu'on peut dire la dernière occupation du siècle dernier qui continue à ce siècle. Donc une série d'émissions qu'on a commencé la semaine passée avec notre ami Issa. Issa ce soir peut-être ne sera pas avec nous pour des raisons donc personnelles, il n'a pas pu se joindre à nous. Donc avec vous Lamine, Karim aussi, bonsoir Karim.
Bonsoir Lamine, bonsoir amis auditrices et auditeurs.
Merci Karim. Karim nous reviendra bien sûr avec les résultats sportifs du championnat national. Ce soir, comme on l'a annoncé la semaine passée, nous allons parler encore de la Palestine ce soir et la semaine prochaine. Et nous avons avec nous Monsieur Amir Massoumi qui est devenu un de nos chroniqueurs pendant le mois de novembre. Donc bonsoir Amir.
Bonsoir. Et bonsoir à vos éditeurs, auditrices.
Merci. Et bien sûr, nous avons avec nous, comme on l'a annoncé la semaine passée, M. Bruce Katz, qui est président cofondateur du PAJU. PAJU, une association active sur la question palestinienne et de la paix à Montréal, palestiniens et juifs unis contre l'occupation. Bonsoir, M. Bruce.
Bonsoir.
Merci beaucoup. Bien sûr, à la technique et à la tactique, comme Issa le dit, Ranou, qu'on remercie d'être avec nous aussi ce soir, et à Texara Ranou, avec la belle musique qui va nous présenter tout au long de l'émission. l'émission pour permettre d'avoir une émission qui parle des fonds des choses, mais aussi qui permet de vous faire passer une soirée agréable avec nous au 102.3 FM. Ce soir, donc, on parlera de Palestine et de cette situation que vit le peuple palestinien depuis des décennies. L'avantage qu'on a aussi ce soir, c'est d'avoir Monsieur Brousse qui est un homme de terrain puisqu'il revient dernièrement de Ramallah, donc il va nous parler aussi de la situation du terrain, de ce qui se passe au niveau de l'occupation israélienne qui continue. Et je rappelle que Monsieur Brousse est de foi juif, donc il a fondé, il est un cofondateur de cet organisme montréalais et canadien, on peut dire, qui essaye de démontrer que la question palestinienne est très complexe. C'est pas juste des juifs contre des musulmans, c'est plus que ça. Et pour entamer le sujet, je demanderai à Amir de nous positionner la problématique de la question palestinienne. Est-ce que c'est une guerre de religion? Est-ce que c'est une guerre d'occupation? Est-ce que c'est une guerre politique ou autre?
En fait, vous avez mentionné que c'est une question complexe, mais à la fois une question extrêmement facile. Vous savez, la question palestinienne, d'abord et avant tout, est une question de l'occupation. Une terre, prétendument son peuple, qu'un autre peuple a prétendu de vouloir conquérir et de s'y installer et créer un foyer. Et c'est, si on regarde l'histoire et le processus de développement, de complication de la question palestinienne, tout est lié à des prétentions mensongères de départ, et par la suite à la création de cette terre, occupation de cette terre par des étrangers qui sont venus d'ailleurs. Mais d'emblée, permettez-moi de très clairement, en réponse à votre question, de dire que la question palestinienne n'est pas une question de religion. Un conflit entre les musulmans et les juifs. D'ailleurs, ce soir, je suis ici et de parler de cette question et j'ai invité mon ami Monsieur Bruce Katz qui est juif. Ni moi ni Bruce ne sommes pas ni arabes ni musulmans. Et alors. Notre position par rapport à la question palestinienne n'est pas basée ni sur les solidarités ethniques, raciales, ni sur une sorte de solidarité sectaire. Cette position est basée sur la question de principe. Et si au lieu de Palestiniens, c'était les souffrances des Palestiniens, c'était le cas des Juifs, c'était le cas des Noirs, des Chinois et d'autres, on défendait cette cause autant et avec autant de vigueur, autant de d'acharnement et de conviction. Et donc, la question palestinienne repose sur une simple question d'occupation. Et cela n'a rien à voir directement ni avec ethnicité des Arabes, ni avec la religion. D'ailleurs, ce qu'on appelle les musulmans, actuellement, une grande majorité des Palestiniens, et n'est pas totalité des Palestiniens, parce que les Palestiniens, hein, on trouve parmi les Palestiniens des chrétiens et d'autres. Eux-mêmes, les Palestiniens, avant qu'ils deviennent musulmans, il était d'autres, peut-être chrétiens. Et avant qu'il devienne chrétien, peut-être il était des juifs. Et il vivait sur cette terre avec ceux qui ne se sont pas convertis, qui ne se sont pas devenus juifs pendant des siècles, même des millénaires. Alors, véritablement, le problème palestinien se pose à partir du moment où des étrangers victimes d'un autre problème, c'est-à-dire antisémitisme chrétien et occidental, historique, décident de devenir et s'installer sur cette terre et construire une sorte de front avancé de colonialisme occidental au cœur de cette région stratégique pour servir les, avec complexité effectivement de colonialisme occidental, de servir les intérêts vitaux de l'Occident. Donc, problème palestinien qui est lié à la création de ce pseudo-État qu'on appelle l'État d'Israël, et d'abord et avant tout, c'est un problème de l'occupation, c'est un problème colonial, c'est un problème qui était exporté d'ailleurs au corps d'un territoire qui n'avait rien directement, qui n'était pas lié directement à des conflits, à des problèmes entre confessionnels, par exemple entre les juifs et les chrétiens, ou des problèmes ethniques et raciaux comme le problème de l'Holocauste et de solution finale et extermination des nazis.
Merci donc Monsieur Massoumi pour ces clarifications sur la nature du conflit. Je reviendrai avec Monsieur Bouskat qui, on rappelle, donc il est président cofondateur du PAJU. Vous avez entamé plusieurs actions ici à Montréal pour parler de ce conflit, pour parler aussi de la souffrance du peuple palestinien. Vous étiez dernièrement à Ramallah dans le cadre donc de ce genre d'activité. Est-ce que vous pouvez, on va peut-être commencer par la fin, mais ce serait intéressant de commencer par la réalité aujourd'hui, parce que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on parle d'une tentative d'entamer donc les négociations pour instaurer cette paix. Est-ce que ce qui se passe sur le terrain inspire à une possibilité d'avoir une paix juste avec la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël?
Pas du tout. Dans ce qui arrive actuellement, c'est au contraire, c'est un peu ce qui a suivi le fameux processus d'Oslo. Tout de suite après, on a constaté que Israël relançait encore davantage la construction des colonies, les autoroutes de contournement. Donc, que tout ce soi-disant processus de paix n'était qu'un écran de fumée. Et au fond, ça signalait plutôt la capitulation des Palestiniens par rapport à une certaine tradition ou position traditionnelle qu'ils entamaient, certaines réclamations qu'ils faisaient. Alors, c'était... ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tout simplement la poursuite d'une politique d'expulsion, d'expropriation de terres qui commence avec Ben Gurion et qui peut même, on peut tracer ça, ce genre, cette pensée, jusque dans les années 20. Et certaines conférences sionistes qui ont eu lieu, comme par exemple aux États-Unis à Baltimore. Je pense que c'est Ariel Sharon qui a constaté ce qu'est véritablement la politique israélienne par rapport aux Palestiniens. Et c'était ceci, on va prendre toute la terre qu'on peut prendre, ce que nous réussirons à prendre, ce sera à nous. Ce que nous ne réussirons pas à exproprier, ça restera dans entre les mains des Palestiniens. Il est très clair, d'après ce que moi je vois, l'expulsion des Palestiniens de Jérusalem-Est à Silwan, où on est en train d'ériger des quartiers, on voit la judaïsation de Jérusalem-Est, ou encore, comme à l'époque de Oslo, on refuse des permis de rénovation chez les Palestiniens. On trouve toujours la façon d'exproprier leur domicile. On voit le même processus à Hébron, où j'ai visité dernièrement. Hébron avait été divisé en trois secteurs en 2002 par Sharon, ce qui arrive dans le secteur est, qui maintenant il y a 500 colons juifs parmi 40 000 Palestiniens dans ce secteur-là et les 500 colons juifs qui sont les reconnus pour être les plus fanatiques de tous les colons des territoires palestiniens, sont protégés par 2 000 soldats. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est par divers moyens. On a entamé une politique qui perdure depuis un certain temps pour écœurer les Palestiniens au point où on souhaiterait qu'ils quittent le secteur Est pour s'en aller dans le secteur Ouest. Donc strictement pas de palestiniens. Et ce qu'un activiste palestinien m'avait expliqué, les Palestiniens appellent ce mouvement-là la déportation silencieuse, parce que ce que l'armée israélienne fait, c'est fait accompli de facto. Donc ils ne viennent pas avec une ordonnance d'expropriation ou d'expulsion, parce que comme on me l'a expliqué, si on faisait cela, des Palestiniens affectés pour avoir recours quand même devant les cours israéliens. Alors, il n'y a pas d'ordonnance, c'est tout simplement sur le terrain. Jusqu'ici, les Palestiniens résistent jusqu'au point qu'ils peuvent, mais par exemple, à Hébron, dans ce secteur-là, les Palestiniens n'ont pas le droit de circuler en auto. Les colons juifs, oui. Alors, dans ce secteur-là, si les Palestiniens veulent déplacer la marchandise ou autre chose, il faut que ce soit sur avec les chevaux ou les ânes. Et c'est le même processus en Cisjordanie. Et je dois aussi vous dire qu'ils font la même chose aux Bédouins dans le Negev actuellement, où ils ont détruit un village bédouin dernièrement. Ça fait 6 fois depuis 3 mois qu'ils détruisent le village. Les Bédouins viennent, reviennent, ils reconstruisent, et les Israéliens reviennent et le détruisent.
On coupe de l'eau et les puits et les sources.
Et la chose, ce qui démontre que jusqu'où les Israéliens et d'où ils viennent, parce que le premier ministre Netanyahou a dit que dans le Negev, il faut qu'il y ait une majorité juive dans le Negev. Alors vous voyez, c'est le nettoyage ethnique systémique, et c'est quelque chose qui revient jusqu'à Vladimir Jabotinsky.
D'après ce que vous dites là, parce que on a entendu beaucoup de discours occidentaux envers les Palestiniens, leur disant que c'est votre faute, vous n'arrivez pas à reconnaître Israël, il faut la reconnaître, et Israël va s'engager dans un processus de paix. Ce que je comprends, c'est que Israël ne voudra jamais, en fin de compte, sa politique sur le terrain est en contradiction de toute volonté, même si du côté palestinien, il se peut qu'ils doivent accepter des concessions. Ce que je comprends, il y a une volonté de prendre toute la Palestine historique.
Permettez-moi, Bruce, parce que vous avez parlé de votre faute, avant que mon ami Bruce réponde à cette question, j'aimerais vous rappeler une citation très très délicieuse de Golda Meir. Justement, ce genre de votre faute, et il faut le comprendre justement en se rappelant de ce genre de citation. Golda Meir, elle disait, il y a une trentaine, quarantaine d'années, en s'adressant aux Arabes et aux Palestiniens, que vous, les Arabes, les Palestiniens, on vous pardonnera jamais pour le crime que vous commettez. Quel crime ? Vous nous obligez de tuer vos enfants. On vous pardonnera jamais pour le fait que vous nous obligiez, nous les Juifs, de tuer vos enfants. Et ça, c'est le genre de prétention. Et d'ailleurs, je pense, Bruce, il va enchaîner sur la question, mais la distinction qu'il a fait en distinguant entre ce grand mensonge, le seul État démocratique au Moyen-Orient, une entité, pseudo-État, ce n'est même pas un État, une entité théocratique, mais bien maquillée, avec des institutions modernes, démocratiques, élections, Cour suprême, la loi, mais dirigée est nourri avec une idéologie raciale, violente, et qui est du sionisme. Et quand on regarde dès le départ, à partir de cette source idéologique, cette vision du monde, cet État n'a fait que, comme Proust il vient de dire, nettoyage ethnique, expulsion, création de la situation de terre brûlée. On dit de mettre des Palestiniens dans un État qui ne peut, même s'ils veulent rester, même s'il a une possibilité de rester, de ne pas pouvoir rester. Donc alors je m'arrête là, mais j'aimerais entendre Bruce.
Sur la question, est-ce que au-delà de la reconnaissance de l'État d'Israël qui est demandée aux Palestiniens, qui est demandée au monde arabe, mais en particulier on parle des Palestiniens, est-ce que la stratégie ou l'existence même d'Israël s'inspire d'une politique, d'une stratégie de chasser tous les Palestiniens de la Palestine historique, ou est-ce que vous pensez que...
Il me semble assez clair que la politique actuelle d'Israël, c'est effectivement cela, c'est d'exproprier autant de terres possible, surtout qu'ils comprennent très bien la complicité de nos élus occidentaux, puis ici le Canada en est un exemple flagrant.
Avec notre gouvernement conservateur.
Oui, mais c'est pas uniquement le gouvernement conservateur, c'est la classe politique en général, et ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'une assez grande contestation entre coulisses de la part d'un certain nombre de députés élus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les pouvoirs, et quand je parle de pouvoir, je parle de ceux qui gèrent les partis politiques ici, que ce soit des types comme Harper, Ignatieff, même un Jack Layton et même un Gilles Duceppe. Parce que je dois constater que, bien que moi j'ai beaucoup d'admiration pour plusieurs bloquistes comme Marie Mourani, Marcel Lucier, Pierre Pocket et d'autres, Monsieur Duceppe, c'est quelqu'un qui a déjà constaté à un de nos membres, et je pense pas qu'il savait que c'était un de nos membres, qu'il aime avoir un pied dans les deux camps. Alors, on ne peut pas compter sur des individus comme ça. Ils n'attendent que, comme Brian Mulroney dans le passé, qui était contre, au début était contre la campagne de boycott contre l'Afrique du Sud, mais quand les peuples de la Terre ont montré une solidarité extraordinaire par rapport à l'Afrique du Sud, comme ils commencent à le démontrer dans la campagne de boycott, et j'incite les gens de boycotter tout qu'il s'agit d'Israël, leurs souliers, leurs vins, leurs cosmétiques, que des cosmétiques comme Ahava qui se vend ici, les souliers comme Beauty Feel qui se vend à certaines boutiques de chaussures sur le Saint-Denis et ailleurs, les vins israéliens. Quand les gens vont dans un supermarché, dans un magasin, n'importe quoi, ils demandent « Est-ce que ce produit vient d'Israël? » Si oui, on ne l'achète pas. Parce que je peux vous dire qu'actuellement, il y a un assez grand élan qui commence à se ressembler au même élan qui a eu lieu par rapport à la campagne contre l'Afrique du Sud, comme par exemple les débardeurs dans certains ports du monde, en Afrique du Sud, même à San Francisco, ailleurs, qui refusent de décharger des navires israéliens. Il est clair pour moi que le seul et unique outil actuellement pour combattre cette tentative de la part du gouvernement d'Israël d'anéantir les Palestiniens sur le plan, et sur tous les plans, y compris culturellement, éducation, c'est la réponse qui pourrait faire la différence, et c'est la seule actuellement. Il ne faut pas compter avec nos élus, ça, il faut oublier ça. Ce ne sont pas des leaders au caractère moral. C'est des suiveurs et ils vont tout simplement suivre le mouvement. Quand ils vont voir qu'il y a un mouvement sur le terrain très, très fort et pro-palestinien en faveur des droits humains des Palestiniens, ils vont faire exactement comme on est dans le passé. Ils vont s'épingler des médailles en disant qu'ils ont toujours été en faveur d'un État palestinien. Parce qu'au fond, ce sont des hypocrites, tout le monde le sait. Maintenant, je dois quand même constater qu'il y a eu... moi, j'ai été très, très impressionné par les Palestiniens que j'ai rencontrés en Cisjordanie. Évidemment, je n'ai pas pu aller à Gaza, qui est pour moi actuellement le plus grand camp de concentration sur la planète. Mais en Cisjordanie, j'ai eu l'opportunité de visiter, d'être à Jénine, de visiter... d'assister à une conférence, et j'ai même été conférencier à l'Université arabe américaine à Jénine. J'étais très impressionné par les jeunes étudiants palestiniens et très content de constater le grand nombre de jeunes palestiniennes qui étaient présentes et qui étudiaient à cette université-là. Et je dois vous dire que les Palestiniens comprennent maintenant que c'est l'éducation, le renforcement de leur culture, le curriculum dans les écoles qui est la voie de leur émancipation.
Pour pouvoir en fait quand se maintenir sur cette terre, donc nous sommes bien à l'écoute d'une émission spéciale sur la question palestinienne. Nous avons M. Amir Massoumi et M. Bruce Katz qui sont avec nous ce soir. On va prendre une pause publicitaire donc dans quelques instants. On vous rappelle qu'on est avec nous jusqu'à minuit, donc on va continuer le débat sur la question palestinienne. On va essayer d'aborder la question de ce que on peut faire nous, citoyens canadiens ici, pour aider ce peuple opprimé à travers des actions concrètes. M. Bruce avait parlé de la question du boycott. On parlera aussi des actions politiques envers les élus, même si des fois ils sont déjà vendus.
En 24 heures, on peut se rendre en Floride en taxi. En 24 heures, on peut devenir propriétaire d'un véhicule. En 24 heures, on peut se simplifier la vie.
En 24 heures, FinTaxi peut vous aider à financer votre permis de taxi en plus de vous offrir une multitude de services sous un même toit.
Nous vous proposons des conditions avantageuses, une démarche simple et facile, un service courtois et des délais très courts. Pour en savoir plus, appelez-nous au 514-353-2757, 514-353-2757 ou visitez le site fintaxi.ca. Avec FinTaxi, prenez la direction de votre réussite.
Les rencontres berbères de Montréal, un voyage musical et culturel au cœur et autour de la culture nord-africaine à Montréal et dans le monde. C'est un rendez-vous tous les mercredis de 13h à 14h sur Radio Centre-Ville.
Parrainage Civique Montréal, organisme qui favorise l'intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle à un urgent besoin d'hommes bénévoles de plus de 18 ans pour vivre une riche amitié avec de jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Une rencontre mensuelle, seulement 5 heures par mois de votre temps pour des activités sportives, culturelles ou de loisirs. Devenez bénévole à Parrainage Civique Montréal. 514-843-8813, 843-8813 ou visitez le www.parrainagemontréal.org.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM, depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Pas pour arriver à toi. une seule seconde d'espoir suffirait pour changer nos lendemains.
في الحب دينا عايشين ليصبر حالي احنا غنون لدر لي وليدين قلوب نصبر دونون سامحين في المساكين الدنيا راها في الكنون حمي رحيم
à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb Montréal à Besse en une seule émission, un mois dédié par les deux émissions donc des deux équipes au peuple palestinien, à ce qui souffre. Ce soir nous recevons monsieur Amir Massoumi, donc personne engagée au sein de la communauté, on peut dire musulmane en général, sur la question du discours, donc sur la question de la question palestinienne en particulier, mais aussi sur la question des dialogue interreligieux, interculturel à plusieurs niveaux. Et bien sûr, nous avons aussi M. Bruce Katz, qui est président cofondateur du PAJU, Palestinien Juif Unis contre l'Occupation. On parle en premier lieu de essayer de démystifier la question palestinienne par rapport à sa réalité d'aujourd'hui, par rapport à la volonté d'État d'Israël, en fin de compte, d'exterminer le peuple palestinien pour pouvoir avoir une reconnaissance de facto sur ce territoire du monde. Et aussi, nous allons aborder la question de notre rôle en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen canadien, envers ce peuple palestinien qui souffre et qui souffre depuis très longtemps. Je reviendrai avec vous, Monsieur Bruce, sur la question de votre expérience personnelle. Vous êtes juif de confession. Vous êtes une des personnes, je dirais, à Montréal, très connue pour son engagement pour le droit des Palestiniens à la paix, leurs droits humains. Comment on peut expliquer cette problématique que peut vivre quelqu'un comme vous, qui est donc de confession juive, qui, à travers votre démarche d'engagement envers le droit du peuple palestinien, vous vous mettez contre un État qui prétend, par sa création, venir rétablir le droit historique des Juifs à avoir un État.
Ben, je pense que d'abord, il faut faire la distinction entre être juif et être sioniste. Et même que moi, je dirais que aujourd'hui, pour éviter, moi, je trouve que le terme sioniste ou sionisme aujourd'hui reste tellement vague chez les gens. Et que il est toujours plus facile pour des gens de démagogues comme un Jason Kenney ou un Erwin Kotler de prétendre que si on critique Israël, en critiquant le sionisme, on est antisémite. Ils n'ont rien de ça. Le judaïsme est une religion, c'est l'expression de foi, et c'est aujourd'hui écoutez, il y a des juifs qui se considèrent juifs culturellement, selon certaines traditions, même selon certaines traditions intellectuelles, mais qui se considèrent laïcs. Il y a des juifs qui sont toujours croyants. Tous ces gens se considèrent quand même juifs. Donc, même la définition de qui est juif aujourd'hui est en soi une complexité. Mais ce que être juif n'est pas, c'est un cultiste de l'État. Alors, y a des gens qui prêchent l'israélisme, c'est-à-dire le culte de l'État d'Israël, tout en disant que si on n'appartient pas à ce culte, on est donc antisémite. Alors moi, je trouve que c'est fondamentalement un mensonge, que ce soit par ignorance ou par la volonté de tromper les gens. Alors, qu'est-ce que le sionisme ou l'israélisme a réussi à faire? Il a réussi à absorber le judaïsme dans l'État, de l'avoir ethnisé, de l'avoir sécularisé, et de pouvoir s'en servir par la suite comme justification pour la colonisation d'un peuple indigène qu'on chasse de leur terre. Alors, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que ceci arrive, mais je veux constater quand même des certains mouvements qui ont lieu à l'intérieur d'Israël et surtout auprès des jeunes. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, qu'il y a plusieurs jeunes qui ayant servi dans le Tsahal, dans l'armée, maintenant rejettent la politique israélienne par rapport aux Palestiniens. Il y a des, et moi je dirais même que actuellement la gauche est plus ou moins non existante en tant qu'un parti organisé. Il reste à peu près le Meretz et ils ont quasiment pas de représentation au Knesset. Sauf que si la gauche va se renaître en Israël, c'est sûr et certain que ça va se renaître avec ces jeunes, parce que même dans certaines écoles secondaires, même il y a des élèves qui ne veulent plus servir. Il y a des soldats israéliens qui ont publié sur l'internet des photos et des vidéos de ce que les forces israéliennes font quotidiennement aux Palestiniens. Par exemple, la situation à Hébron. Alors,
des scènes d'humiliation, d'insultes,
exactement.
Et toutes sortes de, les jeunes arrêtés, exactement. Les yeux bandés et toutes
alors,
sortes de.
Alors, il faut faire attention parce que malgré tout, malgré le fait qu'on a une élite racialiste, colonialiste, dont l'objectif c'est de chasser, d'être complètement chasser les Palestiniens des quelques terres qui leur restent, ils sont contestés quand même à l'intérieur d'Israël. Et actuellement, ce qu'il faut faire, et c'est pour cela que j'insiste autant sur le boycott, il faut comprendre que cette bête féroce qui semble si invincible n'est pas si invincible que ça. Et ce n'est pas. Il est évident que ce n'est pas tout à fait la même chose que l'Afrique du Sud parce qu'il y a, il y a d'autres facteurs en jeu ici, comme par exemple la question de l'Holocauste dont on peut s'en servir quand on veut aussi faire taire la critique. Mais ce n'est pas aussi facile aujourd'hui. Moi, je pense que des possibilités pour une entente future, ça viendra au niveau des peuples. Ce n'est ni le gouvernement d'Israël et certes pas l'autorité palestinienne actuellement qui vont aboutir à faire de quoi.
Ouais. Vous êtes une des personnes qui a fait beaucoup sur la scène montréalaise pour la question palestinienne, soit au niveau médiatique pour la faire connaître, soit au niveau de l'action politique pour faire valoir au peuple palestinien ses droits. Comment évaluez-vous l'implication de la communauté, si on peut l'appeler arabo-musulmane, montréalaise sur cette question? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce que vous pensez qu'il y a un effort à faire comme la question du boycott, ou est-ce que les gens en dorment un petit peu au gaz et qu'il n'y a vraiment pas d'action concrète, soit envers les élus, soit envers la société?
Ben moi, je pense que...
Et on voudrait que vous soyez très critique.
Oui, mais
très...
je pense que ça dépend aussi des groupes et aussi des tendances à l'intérieur de ces communautés-là qui sont quand même ce qu'on parle on parle de communauté arabo-musulmane, c'est aussi divergent en termes d'opinion que même que la communauté juive ici, parce qu'il faut pas penser non plus que tous les juifs à Montréal sont sionistes et que il n'y a pas un bon nombre de juifs à l'intérieur de la communauté qui ne contestent pas Israël. Israël est très contesté, même si parfois ça ne ça n'arrive pas aux oreilles du public et en partie parce que les médias non plus ne veulent pas leur donner l'opportunité de se prononcer publiquement, comme par exemple pour le groupe Voix indépendants juives qui viennent d'organiser une conférence de presse à Ottawa la semaine dernière pour critiquer la politique Harper sur le Moyen-Orient. Il faut dire par exemple qu'il y a eu des moments où on a eu une grande présence, surtout dans certaines manifs de la communauté arabo-musulmane, mais il faut aussi dire que on aurait souhaité à certains autres moments voir beaucoup plus d'implication, puis et je dirais surtout actuellement de voir une plus grande volonté de la part de la communauté arabo-musulmane à s'impliquer dans le boycott contre Israël, le boycott des produits israéliens, parce qu'il y en a plus qu'on ne le penserait qui se trouvent ici. Et ça, je crois que qu'il faut conscientiser ces gens de la communauté arabo-musulmane à tout ce que les Palestiniens souffrent actuellement. Et je peux vous dire que c'est une souffrance quotidienne et une humiliation quotidienne. Et je dois quand même dire que malgré cela. Ce que j'ai vu de leurs attitudes, une résistance maintenant qui se transforme dans quelque chose que je pense est une forte résistance pacifiste, mais qui va se lier avec l'éducation, comme j'ai dit, le renforcement de leur culture et le refus, le titre de mon feu frère palestinien Rezek Farage qui est décédé au mois d'octobre 2009, c'est le refus de disparaître. Mm-hmm. Ils ne disparaîtront pas. Même si Mahmoud Abbas se trouve un peu dans un étau où il est serré par les Israéliens, peu importe cela, les Palestiniens ne reconnaîtront jamais l'idée qu'Israël soit un État juif et en ceci renoncer à leur droit de retour, renoncer au rêve d'une certaine indépendance, cela n'arrivera pas. Et d'ailleurs, cela ne peut pas arriver en droit international. La seule façon que cela pourrait arriver, ce serait la capitulation complète de la position palestinienne et la reconnaissance par les Palestiniens eux-mêmes que l'État d'Israël soit un État juif. Et cela, je peux vous dire, ça n'arrivera pas. Les gens qui ont déjà été s'ils ont parlé avec des Palestiniens sur le terrain, ils savent très, très, très bien que peu importe un discours officiel, Mahmoud Abbas, aucun autre chef politique non plus palestinien, ne pourrait pas faire ces concessions-là à Israël. C'est impossible.
Dans le contexte de l'action internationale vis-à-vis de la Palestine, il y a la question des bateaux, plusieurs bateaux pour Gaza. Le bateau canadien pour Gaza, qu'est-ce que les Palestiniens voient de cette action, même si elle ne va pas peut-être leur donner leurs droits, mais comment c'est perçu ces différentes tentatives de casser le blocus de Gaza?
Mais je pense que c'est perçu comme le forum mondial sur l'éducation qui a lieu en Palestine et ils voient ça comme ça les encourage et ça renforce leur capacité pour résister à cet étau inhumain. Ils voient en ceci la volonté des peuples. Ils savent très bien que ce que sont nos politiciens. C'est très clair pour eux, les médias aussi. Mais sauf que quand il voit ce mouvement des peuples, comme ici, on a été une délégation de professeurs et quelques étudiants d'université venus de Québec. On était 53, c'était un des plus importantes délégations qui était présent. Et l'accueil qu'ils nous ont donné par le fait qu'on était là, par le fait qu'on était là pour appuyer la justice de leur réclamation, le fait que des gens sont prêts à embarquer dans un bateau, que ce soit d'ici ou ailleurs, pour essayer de briser ce blocus, c'est ce qui leur montre qu'ils n'ont pas été oubliés. Ils n'ont pas, même si ils se font trahis par nos classes politiques, ils savent que les peuples de la terre sont avec eux. Donc c'est une action en soi qui est extrêmement importante. Et si les gens ont la possibilité de sortir quelques sous, peu importe, juste le geste de le faire pour aider ce bateau, ce projet à se réaliser, c'est important. Tous ces projets sont importants. Tout geste qu'on fait quotidiennement, même que... je vous donne un exemple très concret. Nous, notre groupe, Pajou avec d'autres, on boycotte une boutique de chaussures sur la rue Saint-Denis. Car on vend une marque de souliers qui est issue d'Israël qui s'appelle Beauty Feel. Alors, on était devant la boutique, puis il y a eu des altercations, etc. Mais on distribue la littérature sur la question de Palestine, aussi sur cette marque de souliers. Il y a eu deux femmes qui sont sorties du magasin un samedi. On était là un samedi. Et sont venues nous voir pour avoir une explication de quoi il s'agissait. C'était deux séparément. C'était pas deux femmes ensemble. C'est arrivé deux fois ce samedi-là. Les deux fois, ces deux femmes sont retournés dans le magasin et ont remis les souliers. Alors moi, je trouve ça... Des gens vont dire, « Oh, mais c'est juste, c'est un petit... » Non, c'est très fort, ça. C'est quelque chose qui n'aurait pas eu lieu même il y a même deux ans. Mais les gens commencent à être conscientisés du fait que c'est les Palestiniens qui n'ont pas de partenaire pour la paix. C'est les Palestiniens qui n'ont pas de partenaire pour la paix, et non le contraire. Et que ce qu'on on vit depuis des années, ici et ailleurs, c'est un énorme mensonge, une manipulation et la désinformation qu'on voit, par exemple, qu'on entend des discours de toujours de quelqu'un comme un Stephen Harper ou un Michael Ignatieff, qui refuse de reconnaître la vérité de la situation, ou sinon ils savent la vérité, mais ils font semblant de ne pas le savoir pour l'expérience politique.
Mais ce que vous soulevez est très important, c'est que beaucoup de gens qui sont peut-être très conscients de la problématique de la question palestinienne sont tombés dans un désespoir en considérant que ce genre de geste n'a aucun impact, donc ils le font pas. Beaucoup de gens considèrent que le boycott... je dépense $1,000 par mois, peut-être il y a 10% qui peut aller en Israël, c'est pas ça qui va faire la différence. Est-ce que vous pensez réellement que ce genre d'action, et les gens pensent à il y a que peut-être que les États-Unis changent de politique pour sauver le peuple palestinien, est-ce que vous pensez que l'action sociale populaire peut avoir un impact sur la situation?
Absolument, absolument. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, si on regarde, il y a déjà maintenant certaines compagnies d'investissement, je parle d'un en Suède, puis un autre ailleurs, qui maintenant retirent leurs fonds d'Israël, ils ne veulent plus être associés
récemment avec une compagnie américaine.
Exactement. Et c'est quelque chose qui se multiplie. Alors, il ne faut jamais tomber dans cette idée qu'en tant que citoyen, on n'a pas de pouvoir. On a un énorme pouvoir, surtout quand on commence à comprendre que quand on entreprend ces actions-là dans des milliers de villes dans le monde, et il faut dire, ce que nous faisons ici sur le terrain, ça se fait dans des villes un peu partout. Au Canada, aux États-Unis et ailleurs, il y a de plus en plus de monde qui s'implique. Il y a de plus en plus de monde qui, dans leur quotidien, ils vont aller acheter quelque chose au supermarché. Voilà ce que je demande les auditeurs de faire. Vous allez acheter quelque chose, posez cette question. Je veux savoir si cette marchandise est comestible. Vient d'Israël, parce que si ça vient d'Israël, je ne veux pas l'acheter. Ce message en soi a un impact sur les gens qui, les entrepreneurs, sur les gens qui sont propriétaires de supermarchés, etc., etc. On est en train de passer un message que la criminalité du gouvernement d'Israël par rapport aux Palestiniens est inacceptable et on refuse d'être complice de cette criminalité en achetant des produits issus d'Israël. Il ne faut jamais penser que cela n'a pas un impact. Ça a un impact énorme. Et on commence à voir les fruits.
Juste parce que je sais que vous allez nous quitter dans quelques minutes, la dernière question que je voudrais adresser avec vous, c'est je sens un désespoir de votre côté par rapport à nos politiciens. C'est sûr qu'on peut comprendre un désespoir vis-à-vis de Harper qui est conservateur, qui a une politique calquée, même pas aux Américains en général, à la bouche, on peut dire. Mais est-ce que vous pensez pas que une action envers les élus, un mouvement de communication intensive avec les élus pour avoir un impact
absolument
sur quelques députés?
Absolument. C'est l'envoi de lettres. Et je dirais surtout des lettres plutôt que des courriels. Je dois vous dire qu'il y a des députés à Ottawa qui m'ont déjà expliqué que un courriel n'a pas le même impact qu'une lettre envoyée. Et je rappelle aux auditeurs, quand vous n'êtes pas obligé de fixer un timbre, un enveloppe qui est adressée à votre député, que ce soit à Ottawa ou aussi à Québec, à l'Assemblée
n'importe
nationale.
Député,
oui, c'est ça. On l'envoie, on le met dans la boîte à mal et ça va se livrer. On n'a pas besoin de
timbre.
On n'a pas besoin de timbre. Donc, c'est juste une question de prendre le temps d'écrire une courte lettre par rapport à l'insatisfaction qu'on a face la politique gouvernementale par rapport à la question palestinienne et par rapport même à la question des arabo-musulmans, parce que ce qu'on voit ici, à mon avis, c'est ce sont des politiciens qui sont tout simplement trop heureux de jouer la carte raciale, surtout quand il s'agit de démoniser les membres de la communauté arabo-musulmane. J'ai pas besoin de vous dire que tous ceux qui avaient dans notre délégation, les quelques personnes qui avaient un nom arabe, se faisaient cibler tout de suite à l'aéroport Ben Gurion, et en entrant et en sortant. Alors c'est ce genre de démonisation que malheureusement on voit aussi chez nos politiciens, et cela aussi il faut le dénoncer. Écoutez, il y a je crois qu'il y a il y a plus de 600 000 Canadiens qui font partie de la communauté canadienne arabo-musulmane. C'est une force politique, ça. Hein? Moi, je peux vous dire que quand on a œuvré lors d'une élection fédérale ici, On a œuvré dans certaines circonscriptions qui avaient une forte présence arabo-musulmane de défaire certains députés qui étaient carrément pro-sionistes. Hey, dans quelques circonscriptions, on a réussi. Donc, il y a une force politique. Ben, la force politique qu'on a potentiellement, ça ne reste que potentiel si on ne fait pas de gestes concrets.
Monsieur Bruce Katz, merci beaucoup de votre présence. Je sais que vous êtes engagé sur plusieurs activités. Vous avez d'autres engagements demain. Vous nous avez fait plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. On tient à vous remercier aussi pour votre engagement sur la question des droits de l'homme du peuple palestinien. Et on aura sûrement l'occasion de vous recevoir une autre fois à notre émission.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, Amir, tu vas rester avec nous. On va prendre une petite pause publicitaire, je dirais dans une minute. Karim va nous présenter donc les résultats sportifs de championnat donc à Jeun, juste après la pause publicitaire. Je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb Montréal à Baisse. Notre ami Aïssa n'est pas avec nous ce soir, mais il sera avec nous la semaine prochaine. On parle de la question palestinienne. On parle aussi du bateau canadien pour Gaza. Nous allons recevoir la semaine prochaine le porte-parole qui va nous donner plus des détails techniques, comment on pourra aider ce bateau. Comme ça nous a été expliqué aujourd'hui, c'est très important. C'est un acte, je dirais, de soutien à un peuple qui souffre. C'est un appel, un cri en disant qu'on vit avec vous, même de loin, votre souffrance. Et c'est une façon de les encourager à résister d'une façon pacifique comme ils le font aujourd'hui pour pouvoir exister. Et c'est le meilleur moyen pour eux pour tout simplement démolir la politique israélienne qui consiste à exterminer un peuple pour avoir toute la Palestine. On va prendre la pause publicitaire dans quelques instants. Ranou, je sais que tu n'as pas de commande sur ça, donc on va attendre qu'elle va passer, puisqu'à Radio Centre-Ville, c'est l'automate qui décide quand est-ce qu'on passe la publicité.
En 24 heures, on peut se rendre en Floride en taxi. En 24 heures, on peut devenir propriétaire d'un véhicule. En 24 heures, on peut se simplifier la vie.
En 24 heures, FinTaxi peut vous aider à financer votre permis de taxi en plus de vous offrir une multitude de services sous un même toit.
Nous vous proposons des conditions avantageuses, une démarche simple et facile, un service courtois et des délais très courts. Pour en savoir plus, appelez-nous au 514-353-2757. 514-353-2757 ou visitez le site fintaxi.ca. Avec FinTaxi, prenez la direction de votre réussite.
Hey, taxi!
Vous rêvez de palmiers, de chaises longues? Ne cherchez plus! L'ATSA vous invite à son événement tout inclus de l'état d'urgence ultime édition. Du 25 au 28 novembre, 24 heures sur 24, sur la place Émilie-Gamelin, métro Berry, profitez de nos forfaits artistiques, dont une soirée avec les sept doigts de la main et l'orchestre d'hommes orchestres. Gentils auditeurs, rejoignez-nous sur www.atsa.qc.ca et sur Facebook. Du 25 au 28 novembre, nos gentils organisateurs vous attendent avec des activités gratuites dont personne ne sera exclu.
Travailler en français, c'est se respecter. C'est un droit. C'est créer de l'emploi. C'est payant.
Moi, je travaille en français.
Je travaille en français.
Travailler en français, c'est se faire respecter. Un message d'impératif français.
Radio Centre-Ville vous donne des outils pour participer à la vie montréalaise. Émissions sur l'emploi, implication bénévole, droits des travailleurs, services communautaires, les solutions sont à votre portée sur le 102.3 FM. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Et
الجزائر قلبي يبليك عقلي طاير ويخمم فيك يا الجزائر قلبي يبليك وقتاش اليوم اللي لاقيك نعشق فيك من صغري اليوم وغدوة كي ذكري Je garderai toujours espoir, tellement j'ai vécu plein d'histoires. في كل دار مسكية بياسمين والنوار يا با دو دو با دو صادر مون كوري لا ما تيت ايور je te souhaite que tu m'en heures nous vivons tous frères et sœurs يا الجزائر قلبي يبليك
Bien à l'écoute de cette émission spéciale Taxi Maghreb Montréal à Bess qui parle de la Palestine, de la souffrance du peuple palestinien. Donc nous avions avec nous Monsieur Bruce Katz qui est président cofondateur du PAJU, palestinien juif uni contre l'occupation, qui nous a éclairé de la situation du terrain, donc de ce que le peuple palestinien souffre. Il nous a parlé aussi de la pertinence de continuer des actions sociales qui apparaissent peut-être pas très fortes, mais qui peuvent avoir un impact avec leur sommation sur le peuple palestinien dans le sens positif, bien sûr. Comme on l'a annoncé, Karim, avec moi, on va donner les résultats sportifs du week-end par rapport au championnat national algérien.
Oui, Lamine, avant de commencer, bien sûr, les résultats sportifs, j'aimerais remercier M. Bruce Katz. Vraiment, c'est un exemple de patriotisme, puis de franchise. Puis, il nous a même donné des actions, si on veut aider, soit on peut écrire des lettres envoyées à des députés ou à des organismes gouvernementaux, ou sinon on peut aider par l'argent, on peut donner de l'argent pour les bateaux qui s'en vont vers Gaza aussi, ou sinon on peut à la fin boycotter les produits qui viennent d'Israël, bien sûr. Ben, je le remercie infiniment. Revenons aux résultats sportifs de la 8e journée qui s'est jouée ce week-end, bien sûr, hier et aujourd'hui. On va commencer par l'USMA Alger, l'USM Alger qui a remporté son match face à El Alma 2-0. Le Wad de Tlemcen a fait match nul chez lui contre l'USM Blida 0 partout. L'USM Harrach a remporté son match contre la JS Kabylie 1-0. Le Kaba de Borj Boarerij a remporté son match contre le Shabab de Bluizdad 2-1. L'ASO Chlef a fait la même chose contre l'MCO, c'est-à-dire remporté par 2-1. L'USM Annaba a remporté son match contre l'AS Club 3-0. Puis les deux rencontres, GSM Béjaïa puis l'MC Saïda a été remporté à cause que trois joueurs de GSM Béjaïa sont convoqués en équipe nationale. Pour l'ESS, l'USTF et l'MC Alger, l'MC bien sûr, elle a un match contre le match retour contre l'Etihad de Tripoli qui va se jouer cette semaine. Donc la FAF a préféré les faire reposer pour bien se préparer pour ce match retour. Pour le classement, on trouve à la première position l'USTF avec 18 points et un match en retard. À la deuxième position, c'est l'ASO Schleff avec 17 points. À la troisième position, l'MC Saïda avec 14 points et un match en retard. Aux trois dernières places, bien sûr, le MCA avec 6 points et 2 matchs en retard. Le Kaba Bojbarevi se trouve à la 15e place avec 4 points. Et au dernier, bien sûr, le 16e, c'est l'USM Blida avec 4 points. Lamine, pour l'équipe nationale d'Algérie, oublions pas qu'elle va jouer un match amical contre le Luxembourg le mercredi prochain au Luxembourg. Juste mentionner que la plupart des billets ont été vendus. Bon, le stade où va se dérouler la rencontre, il contient juste 8000 places. Puis il y a déjà 6000 places qui sont vendues. Puis 80% des places sont des Algériens qu'ils ont achetées, bien sûr.
Donc l'intérêt est toujours là pour l'équipe nationale algérienne. Merci Karim. Donc on revient avec notre invité, Monsieur Amir Massoumi. Amir, je voudrais revenir avec toi sur la question de la reconnaissance. Monsieur Bruce nous a expliqué que dans la reconnaissance, il y a un danger parce que il y a une différence entre reconnaître l'État d'Israël, mais reconnaître l'État d'Israël comme État juif, c'est renier en fin de compte le droit de retour des Palestiniens. Mais d'après toi, on revient souvent en Occident, essentiellement en faisant pression sur les Palestiniens, en mettant comme un préalable à toute solution de paix cette question de reconnaissance. D'après toi, pourquoi ?
Et en fait, cette reconnaissance, on la pose depuis très très longtemps. On la pose uniquement en ce qui concerne l'Israël. On demande jamais la reconnaissance des droits d'existence des Palestiniens ou d'un État palestinien. Cette question revient souvent et toujours en ce qui concerne l'Israël. Mais quand on demande de reconnaître Israël, à vrai dire, qu'est-ce qu'on demande? Historiquement parlant, l'État d'Israël, sa base, sa justification légitimisante historiquement repose sur résolution 181 de Nations Unies. Cet État a été créé en 15 mai 1948 et par la suite Nations Unies a agi en proposant un plan de partage de la territoire palestinien. Ce plan de partage, c'est une forme de reconnaissance. C'est la seule base juridique qui légitime l'existence de l'État d'Israël. C'est la seule base juridique en reconnaissant, oui, qu'on peut partager le territoire palestinien, une partie en le nommant Israël, une autre partie en le donnant en Palestine. Si vraiment on regarde le fondement de cette seule base légitime en ce qui concerne le droit international. Et cette même seule base n'a aucune légitimité parce que l'ONU n'avait pas, et même aujourd'hui encore, n'a pas un tel mandat de exproprier un peuple
pour lui donner un autre.
Et donner la terre d'un peuple à l'autre, que ce soit une partie ou la totalité. Même aujourd'hui encore, l'ONU n'a pas un tel mandat. Donc alors, même au départ, le fondement juridique légitimisant de l'État d'Israël qui crée chez certains, et surtout chez les Israéliens, une attente de reconnaissance est déjà mise en question. Il n'est pas valable. Alors, mais quand on parle de reconnaissance d'un État, c'est une chose, mais quand on demande de reconnaissance d'un État juif, c'est évident que si Palestiniens reconnaissent un État juif, mais depuis quand un État occupant demande d'être reconnu par les occupés. Depuis quand un État légitime demande la reconnaissance non seulement de son existence, mais aussi de ses caractères fondamentaux, c'est-à-dire de ses caractères juifs ou ethniques ou autres, racial, par un peuple qui a pratiquement exterminé et dominé. Donc, vous voyez, tous ces demandes, au fond, ne sont que de se donner du temps et de créer des obstacles pour finaliser un plan, le plan sioniste, qui a commencé avant 1940, avant 1948, la création officielle de l'État d'Israël, et s'est officialisé avec la création de cet État, c'est-à-dire de conquérir cette terre et finalement nettoyer cette terre, et avec, je crois, avec la reconnaissance de judaïté de l'État d'Israël, non seulement on enlève même le côté surface cosmétique des démocratiques de cet État, et cet État par le fait même deviendrait un État carrément ethnique et racial, mais en même temps, de l'autre côté, on signe l'arrêt de mort du peuple palestinien, on renie officiellement le droit de retour, parce que si cet État appartient aux Juifs, bien que dans le fait aujourd'hui appartient aux Juifs, et les Arabes et les non-Juifs sont des citoyens de deuxième rang, mais si officiellement on le reconnaît, et surtout le peuple dominé et occupé reconnaît cela, à ce moment-là, c'est très très explicitement, il signe son arrêt de mort, c'est-à-dire des justifications de son nettoyage carrément sur sa terre ancestrale.
Merci beaucoup, donc Monsieur Massoumi Amir. On va prendre une petite pause musicale avec une chanson qui parle de Montréal, une chanson de notre ami donc Karim Saada. Il vient de sortir son album cette semaine, un album assez intéressant au niveau musical surtout. Il a dédié une chanson à Montréal. Il parle entre autres du petit Maghreb. On va aller écouter cette chanson montréalaise d'un Algérien de Montréal.
Montréal, rencontrer des nationalités. C'est agréable, vivre à Montréal, partager notre identité. C'est agréable, vivre à Montréal, le cœur heureux, la tête en paix. C'est agréable, vivre à Montréal, et s'exprimer sans s'inquiéter. Je suis venu vivre à Montréal pour retrouver la liberté. Vivre à fond comme bon me semble et avoir le droit de rêver. Je suis venu vivre à Montréal, me promener dans ses quartiers. Je suis venu vivre à Montréal, chanter, danser et m'amuser.
C'était Karim Saada avec la chanson Montréal de son dernier album qui est sorti cette semaine, l'album sous titre Aïch Elioum vit aujourd'hui. Je rappelle donc, vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale Taxi Maghreb Montréal à Bess, avec vous Lamine et Karim à l'animation. On parle de la question palestinienne. La semaine prochaine, nous allons recevoir le porte-parole du bateau canadien pour Gaza. Je rappelle, le site c'est www.canadabotgaza, donc Canada comme ça s'écrit, boat, donc bateau en anglais BOAT, Gaza, GAZA.org. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aussi commencer à donner vos dons. La semaine prochaine, ça va être plus intensif puisqu'on va essayer de faire genre radio-temps. Le porte-parole sera avec nous et on voudrait vraiment que nos auditeurs participent avec nous pour soutenir ce bateau, un bateau qui va donner de l'espoir au peuple palestinien. Je rappelle aussi que l'ex-parlementaire britannique qui a été refusé du territoire canadien, tout simplement parce qu'il défend les Palestiniens, c'était le gouvernement Harper qui lui a interdit de rentrer au Canada à un certain moment suite à des démarches juridiques. Donc il s'est donné le droit de pouvoir rentrer au Canada. George Galloway sera à Montréal cette semaine, donc mercredi prochain, 17 novembre à 6h30. Ça va se dérouler à l'UQAM, salle Marie Guérin-Lajoie, au pavillon Judith Jasmin. C'est au 405 rue Sainte-Catherine-Est. Le local, c'est GM400. Donc, pour avoir plus d'informations, vous pouvez aussi consulter le site canadabotgaza.org. Donc, il va donner une conférence sur la Palestine, George Galloway, qui sera à Montréal. Et il sera en tournée au Canada, plusieurs villes, Halifax, Vancouver, Toronto et d'autres. Mais pour Montréal, ça va être mercredi prochain à 6h30 à l'UQAM, au 405 Sainte-Catherine-Est. Amir, je voudrais revenir à la fin de notre émission sur le bateau, sur l'importance de cette mission humanitaire envers le peuple palestinien et comment c'est important aussi de participer financièrement pour supporter cette action.
Et écoute, Lamine, Bruce, dans ses explications, il a bien distingué deux niveaux. Si on regarde des choses au niveau des gouvernements, des politiciens, c'est désespérant. Mais si on regarde au niveau des peuples, au niveau de ce terme qu'il a utilisé, noblesse et la dignité du peuple palestinien dans sa résistance, et aussi et cette large et solidarité à travers le monde dans les actions quotidiennes qu'on voit de plus en plus de la part de l'opinion publique, véritable communauté internationale, et ça, c'est non seulement ce n'est pas désespérant, c'est au contraire, c'est tout à fait encourageant. Et s'il y a un espoir pour la paix, c'est justement, ce n'est pas au niveau des politiciens, de la part de nos faiseurs de la politique, c'est au niveau de la société civile. C'est justement le bateau pour Gaza s'inscrit dans ce dynamisme, dans ce contexte. Et la semaine dernière, je disais dans un contexte que un gouvernement comme gouvernement israélien continue ses crimes dans l'impunité totale, et les autres gouvernements, que ce soit des gouvernements occidentaux, et les institutions internationales et les, même les gouvernements arabes et musulmans, les plupart, soit avec des complicités actives, soit dans un silence complice, ils collaborent à ces crimes. Alors, on peut pas laisser rester comme ça. Et surtout, en ce qui concerne le blocus de Gaza, c'est un camp de concentration, c'est la prison à ciel ouvert, la plus grande prison à ciel ouvert, plus grande prison du monde, mais à ciel ouvert. Donc alors, on doit faire quelque chose. Justement, dans cette situation, l'organisation de ce genre d'opérations, de ce genre de projets, c'est la réponse de l'opinion publique, de la société civile, des gens qui n'attendent pas que les politiciens décident pour eux ou ne se désespèrent pas de l'inaction des politiciens et des institutions internationales qui encaissent et qui appuient l'impunité criminelle de l'État d'Israël. Alors, après... l'expérience de bateau Marmara et réaction des commandos israéliens qui a coûté la vie de 9 militants humanitaires sur le bateau. Je pense, nous avons pensé que non seulement cette action ne doit pas arrêter, parce que la souffrance des Gazois ne s'est pas arrêtée. Cette action ne doit pas s'arrêter. Au contraire, on doit l'intensifier. Mais cette fois-ci, avec résultat, avec le choc que l'opinion publique a reçu suite à des réactions très très agressives et de la part des commandos israéliens, nous avons décidé d'envoyer un ensemble des bateaux qui vient de un peu partout dans le monde. Alors le projet de bateau canadien, effectivement, ça fait partie de cet ensemble de mouvements qu'on appelle le mouvement de liberté Gaza. C'est un mouvement international, c'est un mouvement qui n'est pas ni gouvernemental, ni lié à des institutions officielles. C'est un mouvement qui vient à la base. Et on sait très bien que si on réussit de converger toutes ces actions et toutes ces volontés à la base, il y a beaucoup d'appui pour la cause palestinienne. Et voilà, c'est une tentative pour converger. Et d'où l'importance d'appui à ce projet pour nous, les Québécois, les Canadiens, parce que c'est notre bateau, c'est notre contribution, on prévoit pour
et c'est important
le printemps
qu'on soit présent parmi tant d'autres bateaux qui vont venir de
absolument
nous.
Et ce bateau, comme on dit, gardera cap sur la Gaza, mais avant tout, son objectif est de garder la cap sur la conscience d'humanité et sensibiliser le monde face à cette tragédie qui dure très longtemps et depuis très longtemps. Assez, c'est assez.
La semaine prochaine, donc, nous allons avoir avec nous un porte-parole. On va avoir un radio-temps pour ce bateau, pour permettre à nos auditeurs de participer, comme tous les autres Québécois et Canadiens, à financer. Il faut mentionner qu'on est à peu près à 100 000 actuellement.
On a dépassé 100 000, objectif 300 000. On est presque à moitié. Et je peux dire que comparé avec des Canadiens, la générosité des Québécois toujours dépasse nos attentes. Alors, on compte encore sur cette générosité.
Merci beaucoup, Amir. On va se retrouver la semaine prochaine avec Issa
plaisir.
Aussi. Donc, merci Karim pour les résultats sportifs et Yatexa.
Merci à nos invités, bien sûr, Monsieur Amir et Monsieur Bruce Katz. Sans oublier, bien sûr, Rano à la technique. Merci
beaucoup. Je tiens vraiment à remercier Rano. C'est très agréable de faire une émission avec toi. Très flexible, et je tiens aussi à vous dire Eid Moubarak, puisque l'Eid Adha ça va être mardi prochain inchallah, donc Eid Moubarak. On vous laisse avec une autre chanson de Karim Saada, une chanson assez engagée. À la khair et à la semaine prochaine.
Bonsoir.
الطريق ونشوف القرب كاين شي ناس قاموا للشاش صادمين كلهم بوعافز صادمين كلهم بوعافز صادمين كلهم بوعافز يا خويا عبرك من المنام فيق وشوف القرب كاين شي ناس قاموا للشاش صادمين كلهم بوعافز صادمين كلهم بوعافز صادمين كلهم بوعافز مسكتوا عليهم ما عندهم عن كيفاش هاد الناس يعيشوا لاباس في بلادك متهنين في بلادك متهنين في بلادك متهنين شباب سي خلاص ما عنده قيمة محقور يا ناس يتمنى يهجر لبلاد الناس في طيارة وبابور في طيارة وبابور في طيارة وبابور يا خويا بكاك من المنام فيق وشوف القدام كاين شي ناس باموا للشاش صادمين كلهم بوعافز صادمين كلهم بوعافز صادمين كلهم بوعافز يا بكاك من المنام فيق وشوف القدام كاين شي ناس عمو الشاش صادمين كلهم بوعافز صادمين كلهم بوعافز صادمين كلهم بوعافز